Tendance Ouest.
Tendance Ouest.
Écoutez les chroniques spirituelles de frère Paul Adrien.
Bienvenue dans cette chronique spirituelle. Je suis le frère Paul Adrien d'Ardemar. Je suis prêtre religieux catholique et comme l'évangile du jour va parler des noces, les noces de Cana, je me suis dit qu'un bon échauffement consisterait à parler de différents rites de mariage qui peuvent exister à travers le monde. Nous commençons avec le mariage juif que l'on appelle le Kiddushim, c'est-à-dire sanctification. Le mariage juif a plusieurs rites qui le rendent bien singulier. Il y a par exemple la choupa. La choupa, c'est un dé nuptial sous lequel va se dérouler la cérémonie. La choupa représente le foyer que le couple va construire ensemble. Et les quatre piliers ouverts de ce dé symbolisent l'hospitalité, l'ouverture du couple envers la communauté et leur famille. Ensuite, vous avez la bénédiction et le kiddush, avec la bénédiction du vin que les époux vont partager pour symboliser la joie de la célébration. Ensuite, les époux signent la ketouba, un contrat de mariage, un document légal et sacré qui décrit les devoirs de l'époux envers son épouse. On continue. Ensuite, vous avez l'échange des anneaux. L'époux passe une bague, généralement une bague simple et sans ornement, au doigt de son épouse en lui disant en hébreu « Voici, tu m'es consacré par cette bague selon la loi de Moïse et d'Israël. » Dans certains rites modernes, maintenant, il y a aussi l'épouse qui passe la bague à l'époux. Et puis, on termine par la brisure du verre. Vous voyez, on voit souvent les Juifs avec un verre à la main qu'ils vont briser au pied, qui symbolise la destruction du temple de Jérusalem. Ça signifie que même dans la joie du mariage, le peuple juif se souvient des souffrances passées. Nous continuons notre petit tour du monde avec le mariage Shinto au Japon, qui est très simple, mais en même temps très riche en symboles et en rituels. Notamment, on va prier les kami, c'est-à-dire les esprits divins, qui incarnent les forces naturelles et les ancêtres. Alors, ça commence par une cérémonie au sanctuaire, le mariage qui normalement se déroule dans un sanctuaire Shinto en présence d'un prêtre, avec les mariés qui portent les tenues traditionnelles. Enfin, s'ils portent des tenues traditionnelles, ça va être l'époux en kimono noir et l'épouse en kimono blanc avec une coiffe blanche symbolisant la pureté. Ensuite, toujours avant la cérémonie, les mariés subissent un rituel de purification. Le prêtre va les bénir pour éloigner les mauvais esprits et les mariés vont ensuite offrir des dons aux kami du sanctuaire, généralement avec des petites branches de sakaki, qui est un arbre sacré. On continue. Après, vous avez le San-San-Kudo, 3 fois 3 gorgées. C'est le rituel central du mariage Shinto. C'est le moment où les mariés vont partager 3 coupes de saké. Donc chacun va prendre 3 gorgées de coupe de saké qui symbolisent l'engagement mutuel, la prospérité, le lien entre le passé, le présent et le futur. C'est un rituel qui non seulement unit le couple, mais aussi les familles. Et puis après, vous avez des prières pour demander aux kami de venir bénir le couple. Vous avez la bénédiction et puis vous avez la participation des familles où il y a tout le monde qui boit du saké. Nous continuons avec le mariage hindou que l'on appelle le vihaha, un rituel sacré qui peut durer pour le coup plusieurs jours avec beaucoup de rites. Donc voilà les principales étapes. Vous avez la préparation de la mariée et du marié avant la cérémonie, ce qu'on appelle la haldi. Donc pour le coup, les familles vont appliquer de la pâte de curcuma sur le marié pour purifier leur corps et leur esprit. Le curcuma est considéré comme un antiseptique naturel et donc ça devient aussi un symbole de prospérité ici dans le rite du mariage. Ensuite, vous avez la cérémonie du mendi, une fête où vous avez les pieds et les mains de la mariée qui sont décorés avec du henné. Et puis ensuite, vous avez une soirée de chant et de danse en l'honneur des mariés. Après, le mandap, l'arrivée solennelle du marié, qui a lieu sous un pavillon décoré de fleurs et de tissus colorés qui représente le foyer que le couple va construire. Alors quand on peut, le marié arrive à cheval, carrément, ou à palanquin accompagné de musique et de danse. Ensuite, vous avez les 7 pas, le couple qui effectue autour du feu sacré 7 pas en faisant 7 vœux qui correspondent chacun à un souhait pour la vie commune. La prospérité, la fidélité, la santé, la sagesse, les enfants, la paix, l'amitié. Alors ça, c'est un rite qui est essentiel parce que ça consacre l'union spirituelle. Puis après, vous avez l'échange des colliers et après, vous avez la réception du mariage avec la grande fête. Eh bien voilà pour les quelques rites de bénédiction du mariage. Je me suis dit que ça faisait un bon échauffement pour cette fois-ci écouter l'évangile du jour, les noces de Cana, et une interprétation que je vous propose tirée de l'Ancien Testament, évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous le dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appela le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Les noces de Cana, le proto-miracle, tout le monde connaît. Alors évidemment, on pense tout de suite à l'amour conjugal. Et on a raison. Mais quand on regarde dans le texte attentivement, en fait, on est aussi transporté ailleurs. En fait, vous le voyez peut-être pas, mais dans les noces de Cana, et ça, pour le coup, c'est pas moi qui l'aurais trouvé tout seul, hein, c'est grâce à mes notes d'exégèse, en fait, il y a plein d'allusions secrètes à un événement qu'il y avait eu lieu dans l'Ancien Testament, et c'était le mont Sinaï. Le mont Sinaï, souvenez-vous, Exode, qui reçoit la loi, les 10 commandements de la part de Dieu. Et vous allez me dire, quel lien peut-il bien y avoir entre les noces de Cana, l'eau changée en vin, et le mariage, d'un côté, et le mont Sinaï, le décalogue et Moïse de l'autre? Eh ben, en fait, beaucoup plus qu'il n'y paraît. Par exemple, première chose, vous voyez, il y a cette idée de mariage. Eh ben, l'alliance que Dieu conclut avec l'humanité, ben, je vous rappelle quand même que ça donnait le mot testament, hein, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ça veut dire l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'alliance est souvent dépeinte par les grands rabbins, mais aussi par les pères de l'Église, comme un mariage, comme une noce spirituelle qui scelle une union sacrée entre Dieu et son peuple. Ce qui vous rappelle aussi de dépeindre cette alliance sous les traits d'un homme et d'une femme qui s'unissent, ça vous montre en fait l'intimité avec laquelle vous êtes appelé à vivre avec Dieu, l'exclusivité, parce qu'il y a un mari et il y a une femme, et l'indissolubilité, Dieu ne vous abandonnera jamais. Donc il y a tout ça dans un mariage, et en fait c'est ce que vous retrouvez dans l'alliance entre Dieu et l'humanité, ce qui explique pourquoi est-ce que Dieu se présente ici sous la forme d'un époux. Il est le Moïse, le coryphée, qui va vous introduire dans les noces entre Dieu et son peuple. Alors, deuxième chose, ça n'a l'air de rien aussi, mais on fait une mention d'un troisième jour. Troisième jour, et ben là maintenant je vais dans Exode 19, 11. Le peuple qui est au pied de la montagne, et Moïse leur dit, « Soyez prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, le Seigneur descendra sur le mont Sinaï à la vue de tout le peuple. » Ensuite, vous avez l'eau. Ben, l'eau, on le retrouvait dans le mont Sinaï. Au mont Sinaï, les Israélites se sont purifiés avec de l'eau pour pouvoir être prêts à rencontrer Dieu. Donc là, en fait, ça commence à devenir plus serré que ça n'en a l'air. Parce que ici, Jésus qui demande de remplir des jarres d'eau, ces jarres, c'est pas n'importe lesquelles, c'est des jarres utilisées pour des rites de purification. Et donc l'eau de purification qui devient du vin, c'est le symbole de la purification par la grâce. On continue. Marie qui vous dit, Jean 2, 5, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Bon, et ben ça, c'est pareil, Exode 24, 3, Israël déclare, « Nous ferons tout ce que le Seigneur nous a dit. » Marie qui incarne l'Église et qui se retrouve au mont Sinaï, elle devient l'épouse, elle devient le symbole de nous, de l'obéissance, parce que c'est l'obéissance de la foi qui nous introduit dans l'Alliance et c'est l'obéissance qui permet au miracle de parvenir. Toujours dans les liens, Au Mont Sinaï, Dieu appelle Israël à devenir son peuple élu. Donc en fait, c'est un moment qui marque le début d'une nouvelle relation où le peuple va être guidé par la loi. Parce qu'après le Mont Sinaï, normalement, il faut partir jusqu'en terre promise. Donc en fait, le Mont Sinaï, c'est après la libération d'Égypte, le premier départ. Et ben Cana, c'est aussi un premier départ, c'est un début, c'est le tout début du ministère public de Jésus. Il vient d'appeler ses disciples comme Moïse avait appelé les Hébreux hors d'Égypte. Et de la même manière qu'il y a le Mont Sinaï qui démarre cette lente traversée vers la terre promise, et ben à Cana, c'est le premier grand miracle où Dieu se révèle aux hommes. C'est le début du ministère public. Dernier point commun, même si celui-là est plutôt dans l'ordre du complément. Sur le Mont Sinaï, c'était Dieu qui invitait tout le peuple d'Israël à être une famille sainte. Et de fait, Dieu appelait son peuple d'Égypte pour être devenir son fils, et Dieu se présentait comme le père de cette nation. Ça veut dire qu'au Mont Sinaï, désormais, le peuple hébreu est le peuple de Dieu et Dieu est leur père. Et aux noces de Cana, on retrouve un autre symbole familial avec Marie, la mère de Jésus, qui joue un rôle clé et qui intervient auprès du fils, qui invite les serviteurs à obéir. Donc Marie représente cette fois-ci la foi en Jésus, c'est une nouvelle famille spirituelle qui va naître du ministère de Jésus. Alors, vous me direz, il y a encore beaucoup plus dans les noces de Cana que le Mont Sinaï. Et je suis tout à fait d'accord, parce que ça, c'est la grande richesse de l'évangile. N'empêche qu'en attendant, ben écoutez, vous relirez cet évangile en pensant au Mont Sinaï et en voyant derrière ce mariage l'alliance à laquelle Dieu nous appelle, ce qui explique pourquoi est-ce que Jésus n'arrête pas de se présenter comme l'époux. Vous le relirez, d'accord ? Et vous verrez si par hasard, vous n'êtes pas en train d'entrer dans la nuée mystique, celle-là même où Moïse entra un jour pour recevoir avec le don de la loi la grandeur de Dieu. Et bien voilà, c'est la fin de cette chronique spirituelle. Je m'aperçois avec stupeur que je ne vous avais pas encore souhaité une bonne année. Il paraît qu'on a tout le mois de janvier pour le souhaiter. En tout cas, c'est ce qu'on me disait quand j'étais jeune. Donc, il n'est jamais trop tard. Et je vous souhaite à tous une bonne année.
Retrouvez le frère Paul Adrien sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitch et Discord.